Chapitre 6 Les sceaux. Citation de l'Écriture. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre animaux disant comme une voix de tonnerre, « Viens et vois !» Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal disant « Viens et vois !» Et il sortit un autre cheval, roux, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre et de faire qu'ils s'égorgeassent l'un l'autre, et il lui fut donné une grande épée. Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième animal disant « Viens et vois !» Et je vis, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus ayant une balance dans sa main. Et jouit comme une voix au milieu des quatre animaux, disant « Une mesure de froment pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, et ne nuit pas à l'huile ni au vin. » Et lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal disant « Viens et vois !» Et je vis, et voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. Et le Hadès suivait avec lui, et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Et lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et elles criaient à haute voix, disant « Jusque à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que, et leurs compagnons d'esclavage, et leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fussent au complet. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Fin de citation. Avec ce chapitre, nous passons du ciel pour voir le commencement du cours des événements qui auront lieu sur la terre entre l'enlèvement de l'Église et l'apparition du Christ, jusqu'à l'état éternel, en passant par le millénium. En considérant les siècles écoulés, depuis le début du christianisme, nous voyons la non-repentance des Juifs à l'égard de Christ, la corruption croissante de la chrétienté et la détérioration croissante du gouvernement aux mains des gentils. Nous voyons également que, au milieu de la violence et de la corruption croissante, Dieu a eu les siens qui, au cours du temps, ont dû parfois faire face à d'amères persécutions et souffrances. De plus, il est clair qu'au jour de la grâce, alors que Dieu est au-dessus de tout et qu'il juge providentiellement le mal, d'une part, et prend soin de ses créatures et en particulier de la maison de la foi, d'autre part, il n'est pourtant pas intervenu publiquement dans le jugement des méchants et pour délivrer son peuple dans la souffrance. Cela ne signifie pas cependant que Dieu a été indifférent au mal, aux insultes faites à Christ ou aux souffrances de son peuple, car, en regardant à l'avenir révélé dans l'Apocalypse, nous voyons venir le temps où Dieu interviendra directement en jugement sur les méchants. Sa sainteté sera alors revendiquée, la gloire de Christ maintenue et la bénédiction de son peuple assurée. Les hommes rêvent en vain d'un nouvel ordre. Ils bâtissent leurs plans pour mettre fin à la guerre et établir un monde marqué par la paix et la sécurité. Mais nous apprenons, par ces prophéties, que le monde, loin de s'améliorer par les efforts des hommes, verra le mal croître jusqu'à ce que la profession religieuse devienne apostate sous l'Antéchrist et que le gouvernement du monde soit totalement corrompu sous le règne de la bête soutenue par Satan. Pour profiter de cet extraordinaire dévoilement du futur, il est important de voir, en lisant l'Écriture, que Dieu ne consigne pas les détails historiques ou ne dévoile pas les événements futurs pour satisfaire une vaine curiosité. Tout ce qui est consigné, tant pour l'histoire que la prophétie, a en vue une fin morale et notre bénédiction spirituelle, et doit donc avoir un effet pratique sur notre marche et sur nos voies. Si Dieu annonce la progression du mal et les jugements imminents sur les hommes, cela devrait sûrement avoir pour effet de maintenir le croyant dans une sainte séparation du monde condamné au jugement. S'il nous est dit comment Dieu soutiendra ses témoins au milieu de ses jugements à venir, c'est pour nous donner une plus grande confiance en lui dans toutes les épreuves que nous pourrions rencontrer en voulant être fidèles au nom de Christ. S'il déploie devant nous la béatitude de la cité céleste et de l'état éternel, n'est-ce pas pour élever nos âmes au-dessus des légères tribulations dans les choses qui se voient, mais qui sont pour un temps, en engageant nos affections dans les choses qui ne se voient pas, mais qui sont éternelles? Les événements qui auront lieu sur la terre pendant la période située entre la venue de Christ pour ses saints et son apparition avec ses saints nous sont dévoilés du chapitre 4 au verset 18 du chapitre 11. Ces événements sont présentés à l'ouverture du livre ayant les sept sceaux. Pour connaître le sens de l'ouverture de ces sceaux, souvenons-nous que les symboles sont utilisés pour exprimer de grandes vérités ou pour représenter des personnes et des événements. Il faut chercher la signification de ces symboles et se garder de les utiliser au sens littéral. Si Jean voit un cheval et un cavalier, cela ne signifie pas qu'un cheval et un cavalier sortiront littéralement dans le futur, mais que ce qu'il représente se réalisera. Concernant ces jugements préliminaires, on notera que l'ouverture des quatre premiers sceaux est directement liée aux quatre animaux dont il n'est fait aucune mention dans les trois derniers sceaux. Comme nous l'avons vu, les animaux semblent présenter symboliquement l'exercice des relations gouvernementales providentielles de Dieu. Cela montre qu'aussi terribles que soient les jugements sous les quatre premiers sceaux, rien n'indique une intervention directement miraculeuse de Dieu. Ainsi, sous les quatre premiers sceaux, les jugements ne seront pas différents d'événements qui se sont produits plusieurs fois dans l'histoire du monde, bien qu'en fait, ils puissent surpasser en intensité tout ce qui s'est déjà produit. Versets 1 et 2, le premier sceau. Les jugements sur la terre qui suivront l'ouverture des sceaux résulteront de l'intervention directe du ciel. C'est lorsque l'agneau ouvre l'un des sceaux dans le ciel que Jean entend aussitôt le bruit du tonnerre et l'un des quatre animaux disant « Viens ». En réponse à ce cri, un cheval blanc sort et le jugement commence sur la terre. Les hommes peuvent penser faire leur propre volonté, mais Dieu est derrière tout ce que les hommes font et personne n'est derrière Dieu. Il est généralement reconnu que dans l'expression « viens » et « vois » à l'ouverture des quatre premiers sceaux, les mots « et vois » ne sont pas dans le texte original. « Viens » et « vois » impliquerait un appel à Jean, mais il est peu probable qu'un appel à celui-ci serait accompagné de tonnerre. Le mot « viens » serait un appel aux chevaux et aux cavaliers, et le tonnerre serait alors tout à fait adéquat. Il semblerait, d'après d'autres passages, que le cheval est utilisé pour représenter une puissance impériale utilisée par la providence de Dieu pour réaliser ses desseins, que ce soit en jugement ou en bénédiction. En Zacharie 1, verset 10, il est clairement dit au prophète, concernant les chevaux qu'il a vus dans sa vision, que « ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour se promener par la terre ». Lorsque le Seigneur vient pour régner, le symbole d'un cheval blanc est utilisé. Chapitre 19, verset 11. Il semblerait donc que ce soit en rapport avec le seigneur ou d'autres, que le cheval blanc soit un symbole de la progression victorieuse du cavalier. Ici, le cavalier a un arc, ceci indiquant, comme cela a été suggéré, que contrairement à une épée, sa puissance peut être ressentie à distance sans combat personnel ni effusion de sang. De plus, il lui est permis de tout remporter, car il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Le fait qu'une couronne lui fût donnée pourrait indiquer que ce ne sera pas un monarque héréditaire, mais quelqu'un comme Napoléon ou d'autres dictateurs qui surgissent des masses. Ce premier sceau indiquerait qu'après la période de l'Église, le premier jugement qui s'abattra sur le monde sera l'avènement d'un chef tiré des masses, à qui une position royale sera donnée. Il se lancera dans une campagne d'agression et, pour un temps, ira de victoire en victoire avec une puissance irrésistible sur les nations environnantes. Versets 3 et 4. Deuxième sceau. À l'ouverture du deuxième sceau, Jean voit sortir un cheval roux dont le cavalier ôte la paix de la terre. Cela indique sûrement que la carrière victorieuse du cavalier du premier cheval aboutira à un soulèvement général des nations, conduisant à des guerres intestines sanglantes, résultant à ce que la paix est ôtée de la terre. Versets 5 et 6, troisième sceau. Lorsque le troisième sceau est ouvert, Jean voit un cheval noir, avec un cavalier tenant une balance. Cela indique clairement que la guerre universelle sera suivie d'une famine qui privera les masses des nécessités de la vie, même si les riches pourront encore obtenir leur luxe. Versets 7 et 8, quatrième sceau. À l'ouverture du quatrième sceau, un cheval livide sort avec un cavalier appelé Mort. Cela nous dit sûrement qu'une peste suivra la famine. Ainsi, dans un quart de la terre, des hommes mourront par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages de la terre. Il a été généralement reconnu que ces quatre premiers jugements correspondent à ceux dont le Seigneur parle comme d'un commencement de douleur. Lorsqu'il parle à ses disciples des jugements à venir sur la terre prophétique, il parle d'abord de guerre et de bruit de guerre, puis de guerres intestines, nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, enfin de famine et puis de peste. Matthieu 24, versets 6 à 8. Versets 9 à 11, cinquième sceau. S'il n'y a pas de jugement spécifique lié à l'ouverture du cinquième sceau, il prépare la voie à une série plus terrible de jugements sous les sceaux restants. Ces jugements n'ont plus un caractère simplement providentiel. Les hommes sont obligés d'y reconnaître la main de Dieu. Deux faits sont manifestés par l'ouverture de ce sceau. Premièrement, nous apprenons que pendant la période des quatre premiers sceaux, Dieu aura sur la terre ses témoins qui rendront témoignage à la parole de Dieu et, en conséquence, souffriront le martyre aux mains de ceux qui habitent sur la terre. Ceux-ci trouvent leur part sur la terre et voudraient rejeter toute reconnaissance de Dieu et de son Christ. Ce sont donc des ennemis mortels des témoins de Christ. Ils sont mentionnés à maintes reprises au cours de l'Apocalypse. Voir chapitre 3, verset 10, 11, verset 10, 13, verset 8, 12 et 14, 14, verset 6, 17, verset 8. Deuxièmement, nous apprenons que les jugements qui suivront seront une réponse au cri de ce résidu martyrisé qui monte vers Dieu pour venger leur sang. Aujourd'hui, l'Église a un témoignage céleste, mais lors de ces jugements, le témoignage des témoins de Dieu concernera entièrement la terre et les droits de Dieu sur la création en tant qu'héritage de Christ. Un tel témoignage les mettra bien sûr en conflit direct avec ceux qui habitent sur la terre. Objet de l'opposition et du martyre, ils crieront à Dieu de venger leur sang, à juste titre, car les bénédictions du royaume à venir qu'ils proclament ne peuvent être obtenues que par le jugement du monde. L'appel au jugement ne fait pas partie du témoignage de l'Église, car nos bénédictions sont célestes et sont atteintes par la venue de Christ. Leur cri jusque à quand indique qu'ils savent que la persécution du peuple de Dieu a une limite. L'expression « sous l'autel » symboliserait le fait que ces saints seront offerts comme un sacrifice acceptable à Dieu en tant que premier groupe de saints martyrs après le départ de l'Église. D'autres suivront avant la fin du temps du jugement. C'est pourquoi il leur est dit d'attendre encore un moment jusqu'à ce que le martyre de leur frère soit accompli. Les robes blanches sont le témoignage de leur justice pratique et donc de l'approbation de Dieu. Ayant témoigné que Dieu est le saint et le véritable, les hommes se sont opposés et les ont martyrisés, mais Dieu les a approuvés et il vengera leur sang. Versets 12 à 17, sixième sceau. À l'ouverture du sixième sceau, les jugements prennent une forme plus terrible, de sorte que tous, du plus grand au plus petit, seront frappés de terreur, étant contraints de voir une révolution destructrice et irrésistible au-delà de tout ce que les hommes ont vécu dans l'histoire du monde. Les tremblements de terre semblent indiquer le brisement de tout ordre social, religieux et politique. Les déclarations concernant le soleil, la lune et les étoiles symboliseraient le renversement complet de tous ceux qui exercent le gouvernement, du plus grand au plus petit. Les montagnes et les îles enlevées de leur place présenteraient l'éclatement des empires. Ces convulsions dans le monde paraîtront si terribles aux hommes que leurs consciences seront frappées en voyant la main de Dieu à l'œuvre et qu'ils craindront que le grand jour de sa colère est venu. Mais ayant rejeté le témoignage des témoins de Dieu, ils diront : « Qui peut subsister ? »